Donc, je suis Yves Gauthier. J'anime le site entretienembauche.tv. Et le téléséminaire de ce soir porte sur la question suivante. Entretien d'embauche, comment répondre d'une façon originale et percutante aux questions du recruteur? Alors, pour aborder le thème du jour, pourquoi est-il important de se démarquer en entretien? Eh bien, parce que les recruteurs cherchent à des gens qui sont capables de se démarquer, qui amènent une plus-value. Et surtout, ce qui est important, c'est que cette plus-value doit être assez flagrante, assez évidente. Donc, pour se démarquer en entretien, j'ai recensé 10 points que je vais détailler maintenant devant vous. Premier point, être percutant, c'est un état d'esprit. Deuxième point, le poids de l'introduction. C'est important de bien démarrer. Troisième point, savoir parler structuré. Ce que j'entends par là, c'est l'art de présenter une information qui soit vraiment synthétisée, mâcher le travail pour le recruteur. Quatrième point, parler concret. Ça, c'est un point sur lequel je voudrais insister. Beaucoup de gens parlent un peu dans le flou. Oui, je suis motivé, etc. sans vraiment avoir d'éléments pour appuyer leur dire. Cinquième point, l'art de raconter des histoires, d'illustrer ce que l'on dit. Sixièmement, ça c'est un point qui est souvent pas connu des candidats, savoir utiliser des formules pour se définir, du style « je suis le champion de la prospection ». Hors contexte, ça peut faire un petit peu gadget, mais ça peut donner de l'énergie aussi à un entretien. Septième astuce, parler au présent, ça va donner de l'énergie à l'échange. Huitième point, le langage corporel, comment utiliser son langage corporel pour appuyer ce que l'on dit. Neuvième point, l'écoute, les règles de courtoisie. Ce sont des choses qui peuvent faire la différence d'une façon assez subtile. Ce sont des petites choses auxquelles le recruteur ne fait pas forcément attention, mais qui va remarquer. Et le dixième point, c'est savoir conclure. De façon un petit peu générale, vous avez l'attention du recruteur au début de l'entretien, puisqu'il est là à vous écouter et à faire attention, mais cette attention va baisser assez vite. Donc savoir démarrer fort, occuper le terrain pendant l'entretien, et à la fin de la conversation, savoir conclure, j'irai avec un bouquet final qui permet de marquer durablement le recruteur. Alors, premier point, être percutant, un état d'esprit. Alors, les recruteurs sont morts d'ennui. Ça, c'est le premier élément. Ils sont morts d'ennui. Pourquoi ? Parce que beaucoup de candidats veulent jouer la sécurité. Ils veulent jouer la sécurité. Et donc, partant de là, ils sont dans des discours qui sont stéréotypés, où il n'y a aucune aspérité. On a vraiment l'impression de candidats qui récitent soit leur CV, soit qui récitent des profils un petit peu type où il n'y a rien vraiment qui accroche. Donc être percutant, c'est effectivement d'abord se dire « je vais m'affirmer en entretien, je vais tester des choses, je vais vraiment me démarquer ». C'est partir avec cet état d'esprit par opposition à l'état d'esprit « je joue la sécurité, je reste dans mes pantoufles ». Alors, être percutant, deuxième point, petit b, c'est surtout affirmer sa valeur ajoutée. Alors, sa valeur ajoutée, c'est quoi ? C'est l'argent qu'on va faire gagner, c'est l'argent qu'on va faire économiser, c'est aussi, troisième point, le temps qu'on va faire gagner. Donc, tout ce qu'on dit, à un moment ou à un autre, ça va se ramener sur ces points-là. Faire gagner de l'argent, en faire économiser, faire gagner du temps. Avec des points annexes qui sont par exemple développer un produit, développer un service. Et petit c, être percutant, c'est un état d'esprit, mais qui comporte une part de risque. Effectivement, quand on s'affirme, quand on sort des circuits battus, eh bien on prend le risque que ça ne plaise pas. Deuxième point pour se démarquer, c'est le poids de l'introduction. L'erreur typique, c'est le candidat qui va partir dans une présentation chronologique. Autrement dit, c'est le candidat qui va raconter son CV. Alors, c'est une erreur, pourquoi ? C'est une erreur parce que le recruteur a lu votre CV, il a une idée dans les grandes lignes de votre parcours. Et alors, le paradoxe, c'est que même si vous amenez des éléments supplémentaires, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le recruteur se dit, bon, tout ça, je connais, donc il ne vous écoute pas vraiment. Et la difficulté aussi, c'est qu'avec un parcours chronologique, si vous avez un parcours qui est relativement long, peut-être que vous allez parler de choses qui sont passées dans votre carrière il y a 15 ans, qui n'auront plus aucun rapport avec votre demande actuelle. Donc l'erreur typique, c'est l'introduction chronologique qui est souvent trop longue, qui est ennuyeuse. C'est vraiment un tour de chauffe qui est un petit peu inutile et surtout qui vous empêche de faire correspondre vos compétences avec la demande actuelle du recruteur. Donc le conseil que je peux donner, c'est le point B, c'est de recourir à des introductions thématiques. Pourquoi des introductions thématiques ? D'une part parce que c'est original, parce que ça vous distingue, et également parce que avec des introductions thématiques, vous allez réveiller le recruteur qui va se dire tout de suite, attention là, c'est quelqu'un de différent, je n'ai pas l'habitude d'entendre une personne parler de cette façon-là, hein, parler de façon thématique. Vous allez réveiller le recruteur et surtout, vous allez pouvoir répondre, je dirais, point par point à la demande de l'entreprise. Alors, dans le domaine de l'introduction thématique, il y a différentes choses possibles qu'on peut tester en fonction de du type de poste et du niveau de risque que l'on peut prendre. L'introduction que j'aime beaucoup, c'est ce que j'appelle l'introduction des trois piliers. Alors, l'introduction des trois piliers, j'en parle dans mes vidéos. L'introduction des trois piliers, ça consiste à se présenter en disant, voilà, bonjour, je suis Paul Martin. Le cœur de ma compétence, c'est de gérer des plateformes d'appels téléphoniques, des centres d'appels. Cette compétence repose sur trois piliers. Premièrement, un pilier technique. Je maîtrise l'ensemble des compétences techniques nécessaires à la gestion d'un centre d'appel, que ce soit dans le choix des logiciels, dans leur programmation, tout l'aspect téléphonie. Ce sont des choses qui sont parfois fastidieuses, mais cet aspect logistique conditionne l'ensemble du succès d'une plateforme. Le deuxième pilier de ma compétence est un pilier management, hein. Former des équipes, construire avec les équipes des argumentaires. C'est aussi sur l'aspect management, savoir promouvoir des gens, les motiver. Et le troisième pilier de ma compétence, c'est un aspect commercial, hein, puisque j'ai l'habitude de prospecter pour trouver des clients pour les centres d'appel. Hein. Par exemple, dans mon précédent poste, j'ai travaillé pour une plateforme d'appel située à Madagascar. Quand je suis arrivé, nous avions un chiffre d'affaires en euros d'1,2 million. 3 ans après, j'avais développé le chiffre d'affaires puisque nous avions un chiffre d'affaires de 2,7 millions. Et nous étions passés de 42 clients à 67 clients dans le monde entier. Donc voilà pour vous résumer ma compétence. Alors, un petit flash en arrière. Donc cette présentation des trois piliers vous permet vraiment de lancer les choses d'une façon qui est tonique, d'une façon qui est dynamique. Hein, et cette façon de faire va vraiment vous distinguer par rapport aux autres candidats. Autre type d'introduction, c'est ce que j'appelle l'introduction épiphanie. Hein, alors ça, c'est une introduction qui, je dirais, qui est réservée peut-être au profil pour les gens qui veulent vraiment se distinguer, par exemple pour les commerciaux. Alors cette introduction épiphanie, ça consiste à dire... Par exemple, on dit au candidat « parlez-moi de vous ». Cette introduction épiphanie, ça consiste à dire quelque chose du style. Bien écoutez, pour vous parler de moi, la meilleure façon pour moi, c'est de vous parler du moment clé dans ma carrière. Et ensuite, on enchaîne sur une anecdote, une petite histoire. Alors ça peut donner par exemple « Monsieur Martin, parlez-moi de vous ». Eh bien voilà, pour vous parler de moi, la meilleure solution, c'est je crois de vous parler d'une expérience qui a été déterminante dans ma carrière. C'est le jour où j'ai déposé le bilan de ma société. J'avais créé une société de services informatiques. Après 2 ans, j'étais amené à déposer le bilan, à licencier 13 personnes. et j'ai appris trois leçons de cette expérience. La première leçon concerne le management d'équipe. Et voilà, et donc après j'enchaîne sur ce que j'ai appris, et comme par hasard, les leçons que j'ai apprises, eh bien ces leçons correspondent à des attentes actuelles de l'entreprise. Donc ça, c'est l'introduction épiphanie. Alors, autre type d'introduction, c'est ce que j'appelle l'introduction valeur ajoutée, donc toujours à peu près le même principe. Ben, Monsieur Martin, parlez-moi de vous. Ben, écoutez, pour vous parler de moi, je pense que la meilleure façon de me présenter, c'est de vous parler de la valeur ajoutée qu'aujourd'hui, je pense pouvoir apporter à votre entreprise. Cette valeur ajoutée repose sur trois points. Premièrement, en tant que commercial, eh bien, le fait que j'ai un réseau, et par ailleurs le fait que je sois un prospecteur dans l'âme. Donc cette valeur ajoutée, c'est mon réseau et mes capacités commerciales. Ma valeur ajoutée, dans un deuxième temps, c'est ma connaissance des évolutions du marché, puisque j'appartiens à de nombreux syndicats professionnels, ce qui me donne une prise directe avec les évolutions du marché. Et ma valeur ajoutée, c'est aussi ma capacité à créer des partenariats, notamment avec des sous-traitants, puisque je dispose d'un réseau de sous-traitants en Chine. Voilà, donc là, je vous le fais un petit peu au débotté. Alors, on peut présenter dans les grandes lignes et par la suite développer, ou avoir des présentations un petit peu plus développées tout de suite. Là, c'est selon. Voilà, donc le poids de l'introduction, c'est important parce que ça va donner toute la couleur à votre entretien, et ça va vous permettre vraiment de lancer les choses avec beaucoup d'énergie. Alors, troisième point, parler structuré. Alors, parler structuré pour être percutant en entretien d'embauche. Alors, pourquoi ? Alors, beaucoup de candidats, en fait, déballent l'information en vrac, sans vraiment se soucier de la manière dont c'est reçu. C'est une erreur que j'appelle le brocanteur. La conséquence sur le recruteur, c'est que ça fait beaucoup d'informations. C'est très fatigant pour le recruteur. Donc, un candidat qui structure l'information qu'il présente va donner une impression plaisante. Alors, le recruteur n'identifie pas forcément toujours ce qui se passe, mais une information qui est structurée, vraiment, va donner un plus au candidat. Alors, parler structuré, ça veut dire, c'est le point B, ça veut dire prendre l'habitude de parler suivant des plans simples. Alors, un plan simple, c'est par exemple, quand on vous dit, parlez-moi de votre dernier poste. Ça, c'est l'exemple que je développe. Parlez-moi de votre dernier poste. J'étais chargé de... Alors, je commence par un intitulé général. Donc, j'étais chargé de clientèle au sein de la banque BNP Paribas. Je suivais un portefeuille de 127 clients professionnels, des PME, des PMI, etc. Donc, intitulé général du poste. Ensuite, je vais donner les objectifs. Alors, mon objectif annuel était d'avoir un volume d'affaires, prêts, assurances, etc., de 700 000 euros. Donc ça, c'est l'objectif qui m'était assigné, objectif que j'ai rempli l'année dernière. Les moyens que j'ai mis en œuvre, eh bien, c'est je travaille beaucoup par recommandation, puisqu'un des objectifs qui m'était fixé, c'était de développer ce portefeuille de clientèle. Donc je m'appuyais beaucoup sur les recommandations pour développer ce portefeuille. Et par rapport à mes clients existants, une de mes techniques préférées, c'était vraiment d'aller rencontrer les gens sur leur lieu de travail, dans leurs entreprises, pour vraiment non seulement prendre en compte leurs demandes techniques, mais aussi comprendre le contexte dans lequel ils agissaient. Et donc les résultats, bien, l'année dernière encore, j'ai atteint mes résultats chiffrés en développant ma clientèle, puisque je suis passé, pour l'anecdote, l'année dernière, du client j'ai ajouté 23 clients à mon poste de clientèle. Donc, parler structuré, ça veut dire utiliser des plans simples avant, après, ce que j'ai fait, ce que j'ai mis en place, pourquoi, comment. C'est toujours prendre l'habitude de mâcher l'information pour que la personne en face puisse vraiment retrouver ses petits. Alors, quatrième point, parler concret. Alors, ça, c'est un point capital, c'est-à-dire que vous êtes en entretien d'embauche pour véritablement appuyer avec des détails ce que vous pouvez apporter à l'entreprise. Alors, par exemple, c'est le point B, il faut savoir chiffrer son parcours. Je le disais dans l'exemple précédent, quand je suis arrivé, j'avais 27 clients et 142 000 euros de chiffre d'affaires. 3 ans après, j'avais 48 clients et 2,3 millions de chiffre d'affaires. Alors, tout le monde n'a pas des chiffres d'affaires aussi importants, mais savoir chiffrer son parcours, ça peut être aussi, par exemple, pour une assistante de direction, dire voilà, je traitais des demandes de crédit. Quand je suis arrivé, chaque demande était traitée en 72 heures. Grâce au travail d'organisation que j'ai fait, chaque demande a pu être traitée en 24 heures. C'est vraiment savoir donner des éléments chiffrés qui font que le recruteur va pouvoir se repérer. Ça peut être aussi parler en termes de postes de travail économisés. Voilà, en mettant en place une nouvelle procédure comptable, j'ai pu économiser l'équivalent d'un demi-poste. Ce genre d'approche. Ça, c'est important parce que le recruteur veut pouvoir se projeter par rapport aux éléments que vous fournissez. Alors, il y a un troisième point, c'est le point C, savoir éviter les formules vides, du style « je suis motivé ». Si vous dites ça, le recruteur va vous dire « vous êtes motivé, mais vous êtes motivé, pourquoi, comment ?» Il faut à chaque fois pouvoir le prouver. Donc, si par exemple, imaginons un débutant qui dit « voilà, moi, je suis motivé pour travailler dans le domaine des cosmétiques », c'est un petit peu court. Excusez-moi. Par contre, un candidat qui dit, par exemple, je suis motivé, je suis abonné à la presse professionnelle, j'ai visité le dernier salon cosmétique qui s'est tenu à la porte de la Villette, j'adhère à différents blogs et à différents forums, même si cette personne n'a pas d'expérience pratique, concrète, n'a pas fait de stage, il montre avec ses éléments, avec ses détails, il montre que effectivement son intérêt dépasse les simples formulations « je suis motivé ». Alors, petite parenthèse, il y a tout un art, en fait, notamment pour les débutants, de se construire des éléments pour appuyer leur discours. Je vous disais, ça peut être créer un blog, ça peut être présent sur Twitter et synthétiser, relier des informations. Ça peut être faire des interviews avec des experts. C'est vraiment, même si on n'a pas une expérience professionnelle directe, créer des expériences qui font que on a quelque chose à dire pour appuyer son discours. Alors, cinquième point, pour être percutant en entretien, savoir raconter des histoires, savoir illustrer ce que l'on dit. Alors, petit A, pourquoi ? Eh bien, parce que le cerveau humain fonctionne comme ça et parce que ça va marquer le recruteur durablement. Si vous avez un style assez lisse, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'anecdote, le recruteur ne va rien retenir. Par contre, si vous racontez une anecdote, par exemple, un commercial qui va raconter une prospection un petit peu folklorique dans le sud-ouest, par exemple, un ex-patron d'entreprise qui va raconter comment il a gagné un gros contrat, par exemple, une assistante qui raconte comment elle a pu organiser un séminaire en 48 heures et comment elle a dû pour ça se débrouiller pour trouver une salle, etc., vous allez marquer le recruteur. Vous savez, le recruteur reçoit 5, 6, 7, peut-être 10 personnes au maximum. En général, ils en reçoivent 5, 6 pour un poste. À un moment, 3, 4, 5 jours après, bon, on ne se rappelle plus forcément ce qui a été dit. Et souvent, ce qui surnage, c'est une ou deux exemples qui sont frappants. Alors, il y a des choses amusantes. Il faut, par exemple, savoir utiliser des détails à la limite de l'absurde. Par exemple, on vous dit quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. C'est une classique de l'entretien d'embauche. Eh bien, vous pouvez dire, une de mes qualités, c'est l'organisation. J'ai un carnet qui, pour l'anecdote, est bleu. J'ai un carnet bleu. Et dans ce carnet, tous les soirs, je marque ce que je dois faire le lendemain, Je marque trois choses essentielles que je dois faire le lendemain. Et ça peut paraître complètement idiot, mais complètement anecdotique, mais ce carnet bleu, en fait, le fait simplement de noter ce qu'on doit faire, ça m'aide vraiment à commencer la journée par ça et à abattre du travail et vraiment être productif sur la première partie de la journée et lancer toute la journée pour être productif. Donc ça, c'est voilà, un détail, le carnet bleu hein, qui va marquer le recruteur. Alors, point C, raconter des histoires, c'est aussi une occasion de savoir marquer le recruteur et de redonner de l'énergie à l'entretien. Vous savez que on commence l'entretien, il y a beaucoup d'énergie, et puis le temps passe, le recruteur part dans ses pensées, etc. Une histoire, c'est l'occasion de recentrer. Alors un petit truc aussi, si vous avez l'occasion, par exemple en racontant votre histoire, si vous pouvez utiliser un paperboard, ou si vous pouvez utiliser ne serait-ce qu'une feuille de papier en faisant des petits gribouillis, des dessinant des volumes pour appuyer ce que vous dites, c'est vraiment un plus parce que ça reconcentre le recruteur, ça lui donne l'occasion vraiment de se replonger dans ce que vous dites. Alors, sixième point, savoir utiliser des formules pour se définir. Hein. Alors, en petit âge, je dirais, il est important de savoir, quand on rentre, l'image qu'on veut laisser. Hein. Par exemple, voilà, l'image qu'on veut laisser, ça peut être, voilà, je suis ingénieur avec un goût pour le management et une sensibilité pour le commercial. Hein. Je suis assistante de direction, passionné par tout ce qui est organisation de séminaires et avec une compétence pour la création et la gestion de sites internet, hein, par exemple. Je suis débutant, c'est vrai, dans le domaine de la vente, mais j'ai pu montrer ma capacité d'organisation, notamment dans le monde associatif. Hein. Vous voyez, c'est avoir en tête quand on rentre en entretien précisément les deux ou trois points sur lesquels on veut marquer le recruteur. Alors, savoir ces deux ou trois points qui peuvent être résumés par des formules frappantes. Alors, par exemple, je suis un forcené de la prospection. Alors, peut-être un peu exagéré, mais vous savez, le recruteur s'endort, il faut pouvoir de temps en temps le réveiller. Et dans le contexte, ça peut passer où on peut utiliser aussi des formules du style « moi, je me définis comme un prospecteur » ou « je me définis comme un chercheur d'or ». Hein, ça, c'est à vous de trouver un petit peu l'intitulé qui est peut-être plus ou moins, on va dire, vendeur. La formule de base, c'est par exemple, moi, j'ai vraiment à cœur d'écouter la clientèle. Mon point fort, c'est le sens du service, le sens de l'écoute. Hein, ça, c'est la formule de base. Et puis, on peut aller sur des formules un peu plus démonstratives. Je suis un prospecteur, je suis un chasseur de gros clients. Je suis une organisatrice, je me définis comme une personne capable de faire la synthèse par rapport à des demandes conflictuelles. Je suis l'homme qui gère des conflits. Hein. On ne va pas dire je suis l'homme qui tombe à pic, hein, mais l'idée c'est d'avoir des formules qui puissent vraiment vous définir. Et toujours, bien sûr, ça c'est le point C, avoir du matériel qui vous permette d'appuyer ces formules. Hein, si vous annoncez, par exemple, « je suis l'homme de la prospection », vous devez avoir dans votre musette des éléments qui vont montrer qu'effectivement, vous vous êtes à plusieurs reprises illustré dans ce domaine. Voilà. Alors, autre point pour être percutant en entretien, savoir parler au présent. Ça, c'est un élément important. Parler au présent, c'est quelque chose qui va donner de l'énergie à votre entretien. Hein. Par exemple, quand vous parlez d'une expérience passée, on vous dit « parlez-moi de votre dernier poste quand vous étiez chez AXA hein. ». Alors, j'ai fait une faute sur mon slide. Alors, quand on vous dit, par exemple, de parler d'une expérience passée, parler au présent, ça va donner une certaine réalité à ce que vous dites, une certaine immédiateté, et surtout, ça va permettre aux recruteurs de se projeter. Donc, parlez-moi au présent, on va dire, voilà, qu'avez-vous mis en place dans votre dernier poste? Voilà, dans mon dernier poste, donc j'étais chargé d'animer une équipe de 5 commerciaux. J'étais directeur commercial donc, dans la société informatique rouennaise qui vend des photocopieurs. Donc j'animais une équipe de 5 commerciaux. Quand j'arrive, l'objectif qui m'est donné, c'est de développer le chiffre d'affaires, puisque le chiffre d'affaires à ce moment-là est de 327 000 euros. Je mets en place une nouvelle politique de formation, hein, puisque j'hérite de commerciaux qui sont des vieux de la vieille. Donc je reformule toute l'approche commerciale grâce à des formations intensives. Je redéfinis la politique commerciale en créant des forfaits et je rencontre le succès. Bon, là, je vous fais un résumé un peu vite fait, mais parler au présent, ça va donner de l'énergie à ce que vous dites. Parler au présent, quand vous parlez du passé, parlez également au présent quand vous parlez au futur. Hein, par exemple, si on vous dit qu'allez-vous mettre en place demain si je vous nomme à ce poste, vous parlez au présent avec une réponse du style « Bien, la première chose que je fais, je réalise un audit complet de la situation. Deuxièmement, je réunis l'équipe et je leur fais part de l'objectif, etc. etc. » Alors, deuxième petit bec, quand vous parlez au présent, ayez un style narratif. Hein, pour reprendre un petit peu l'exemple que j'étais en train de faire, que faites-vous demain si vous êtes nommé dans ce poste ? Réponse, la première chose que je fais, je réunis l'équipe et je leur dis la chose suivante. Je leur dis bonjour messieurs, bonjour mesdames. Mon objectif, c'est que d'ici un an, nous ayons développé les ventes sur Internet. Aujourd'hui, ces ventes sur Internet représentent 127 000 euros, hein, soit 10% des ventes globales de la société. Mon objectif, c'est que ces ventes atteignent au moins 50% du chiffre des ventes de la société. Voilà ce que je dirais à l'équipe. Donc, je prends un peu de recul. Donc, vous voyez le principe ? Ne pas hésiter à parler au présent et à parler comme si vous étiez dans la situation. Hein, ça, c'est ce que j'appelle passer en hyper-réalité. Donc, c'est une formule qui est un petit peu amusante, mais c'est... Demain, qu'est-ce que vous faites ? Alors, la première chose que je fais, c'est je réunis l'équipe et je leur dis. Hein. Plutôt que d'éviter, bah, la première chose que je fais, je réunis l'équipe. Là, je leur présente les objectifs, blablabla. Non, la première chose que je fais, c'est quand je prends mes fonctions, je réunis l'équipe et je leur dis. Devant nous, il y a un mur. Ce mur, c'est si on continue à vendre par catalogue traditionnel, on va se faire doubler par la concurrence. Mon objectif, c'est demain... que dans l'année qui vient, 50% de nos ventes sont réalisées par Internet, etc., etc. Ça, c'est très important d'avoir un style narratif, ça va donner de l'énergie et de la réalité à ce que vous dites. C'est une chose que peu de candidats font, mais c'est vraiment le truc qui peut vraiment vous distinguer. Alors, là, je crois qu'il me manque un slide. Ouais, je me suis trompé dans l'ordre. Alors, huitième point, le langage corporel. Alors, langage corporel du candidat, choses à faire et à ne pas faire. Alors, je commencerai par les choses à ne pas faire. Alors, les choses à ne pas faire, bon, on vous l'a déjà dit, mais c'est bon de le répéter. Les choses à ne pas faire, c'est avoir un langage corporel qui soit fermé. Hein. Langage corporel fermé, les jambes croisées, les bras croisés, se tenir à distance. Hein. Ça, c'est le langage corporel. Ensuite, les choses à ne pas faire, parler d'une voix hésitante, parler trop vite. Hein. Parler trop vite, souvent, ce sont les personnes nerveuses qui parlent vite. Donc, c'est une chose à éviter. Et alors, les choses à faire en termes de langage corporel. Alors, les choses à faire, c'est se tenir droit. Hein. Poignée de main ferme quand on arrive, se tenir droit. Regarder son interlocuteur dans les yeux, mais sans trop non plus appuyer. Et d'une façon générale, avoir un langage corporel qui soit ouvert. Ne pas hésiter à bouger un peu, à utiliser ses mains. Ça permet à la personne qui est en face de vous suivre... d'une façon beaucoup plus fluide. Alors, petit B, il y a un point important, c'est quelle attitude physique adopter quand on rentre sur des sujets un petit peu conflictuels. Un conseil que je peux donner, quand on vous pose des questions qui sont délicates ou ennuyeuses, on vous demande par exemple pourquoi avez-vous quitté votre dernier poste, la tentation des candidats, ça pourrait être de se mettre vers l'arrière. Quand on vous pose une question difficile, la première chose à faire, c'est vraiment de se pencher vers l'avant, hein, de rentrer dans l'arène. Hein. Ça, c'est un élément qui est important. On vous l'a dit, vous l'avez lu, plus de 80% de la communication passe par le langage corporel. Si on vous pose une question et que vous dites « Ah ben non, oui, j'ai décidé de partir de mon précédent poste parce que j'avais fait le tour, etc. » Et si vous dites ça avec un langage corporel qui est fermé en prenant de la distance, la personne en face va sentir qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà. Alors, le langage corporel, c'est aussi savoir écouter le langage corporel du recruteur. Ça, c'est un point important. Savoir noter les grimaces, savoir noter les petits flottements, les petits balancements, hein, c'est ce qui vraiment va vous permettre de faire la différence par rapport aux autres candidats, en relevant des petits détails qui vont vous permettre de rebondir, hein. Et c'est là que très subtilement je fais une transition vers le point numéro 9 qui est l'écoute. Alors l'écoute, d'une façon un peu générale, c'est au départ savoir se mettre à la place du recruteur. Hein, savoir se mettre à la place du recruteur, ça veut dire comprendre ses trois attentes principales. Le recruteur a trois attentes. La première attente, c'est vérifier votre compétence technique. Si vous êtes en entretien, c'est que vous avez convaincu, j'irais sur le papier, le recruteur vous avez les compétences. Hein. Donc le recruteur cherche à être rassuré sur ses compétences techniques. Il vous posera peut-être des questions techniques pour voir un petit peu si vous assurez. C'est une attente du recruteur, c'est, j'irais, il veut être confirmé dans son sentiment par rapport à la lecture de votre CV. Hein. Donc première attente du recruteur, voir qu'effectivement, techniquement, vous tenez la route. Deuxième attente du recruteur, ça, c'est vraiment le point central, c'est vous connaître. Et en particulier, savoir si vous avez la capacité à vous intégrer à une équipe. Il y a des études qui ont été faites, notamment par des universités américaines, j'en parle dans mes vidéos, qui montrent qu'en fait, c'est avant tout l'élément de sympathie qui fait qu'un candidat va être recruté ou pas. Donc on a tendance à voir le séminaire, enfin l'entretien d'embauche, comme un test technique, alors qu'en fait, c'est avant tout un test relationnel. Hein. La question qui est posée, en fait, c'est est-ce qu'on vous voit bien vous intégrer est-ce qu'on vous imagine bien vous intégrer dans une équipe? Est-ce que vous êtes quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un qui est souple, quelqu'un qui est adaptable? À compétence technique égale, c'est vraiment la capacité à communiquer qui va faire la différence. Et même dans certains cas, si vous avez une personne qui est très compétente techniquement, mais qui communique mal, avec en face un candidat, qui est moyen techniquement, mais qui communique bien, il y a des chances pour que ce soit le candidat moyen techniquement, mais qui communique bien, qui soit sélectionné. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui a une personnalité difficile, qui n'est pas claire, qui est obscure, on se dit, voilà, cette personne-là, pour la faire communiquer, ça va être compliqué. Hein. En clair, je vais me prendre la tête avec cette personne. Même si elle a des idées géniales, c'est tellement confus, c'est pas clair, c'est lourd, son style de communication n'est pas agréable. Donc ça va pas être facile. Et surtout, ce sont des comportements qui sont difficiles à faire évoluer. Hein. Alors qu'à contrario, une personne qui est de bonne volonté, qui communique bien, qui a une compétence technique qui est moyenne, on se dit, bon, sur la compétence technique, cette personne va pouvoir progresser. Donc ça, c'est vraiment important. Écoute du recruteur sur un point précis. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui sait bien communiquer, qui est agréable, quelqu'un avec qui vraiment on va avoir plaisir à travailler? Et la troisième attente du recruteur, c'est est-ce que vous amenez des bonus? Alors ça, c'est un point très important. Est-ce que vous amenez des bonus? Par exemple, est-ce que vous avez une double compétence? Est-ce que vous parlez différentes langues? Est-ce que vous avez un réseau? Est-ce que vous appartenez à des réseaux? Hein? Et ça, c'est vraiment là-dessus que vous allez pouvoir vous distinguer. Ça, c'est très, très important. Il ne faut pas rester uniquement dans le cadre de l'entretien. Il faut aussi savoir se distinguer. Alors, pour ça, l'écoute, ça va consister, point B, à aller chercher des détails hein, en posant les bonnes questions. Alors, notamment, quand on vous pose des questions du style Avez-vous des questions? Il est important de poser des questions qui vont vous permettre en fait de mettre en valeur votre compétence et la stratégie que vous allez employer. Par exemple, on vous demande avez-vous des questions? Et là, vous dites ben oui, j'aimerais vous parliez de la prospection. J'aimerais savoir quelle est aujourd'hui votre stratégie en matière de communication sur Internet. J'ai vu par exemple que vous faites quelques vidéos, etc. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus? Alors là, c'est dans le cas où effectivement vous avez face à vous le décideur. Hein. Si vous êtes face à un cabinet de recrutement, ce n'est pas forcément pertinent. Mais vous voyez, posez des questions qui vont faire que la personne en face va vous donner quelques éléments de réponse. Vous allez écouter vraiment ce qu'elle vous dit. Et par rapport à cette écoute, vous allez pouvoir tout de suite lancer quelques pistes et faire valoir votre compétence. Point C, ce que je voudrais souligner, c'est que une écoute de qualité, ça a un impact. Alors, on a tendance à croire que créer de l'impact, c'est parler bien, avoir des belles formules, raconter des histoires, parler de façon structurée, etc. Ok, c'est vrai. Il ne faut pas trop en faire non plus, mais avoir de l'impact, c'est aussi créer une ambiance où le recruteur se sent écouté et où il voit vraiment que vous faites attention à ce qu'il dit. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer le recruteur, vous rendre percutant d'une façon qui est très subtile. Hein, cette notion de savoir écouter le recruteur. Alors, dixième point, savoir conclure. Alors, c'est important de savoir finir en beauté. Pourquoi c'est important? Je vous le disais, parce que le recruteur est attentif au début de l'entretien, il est attentif en fin d'entretien. Entre les deux, les fois, la tension baisse. Alors, il est important donc de finir en beauté en ayant gardé, par exemple, une petite pépite, une surprise. Il est important de... Par exemple, on peut, dans le cours de l'entretien, par exemple, parler de son réseau, et on peut, après, à la fin de l'entretien, revenir là-dessus en disant que c'est un réseau international. Par exemple, on peut avoir parlé de ses compétences informatiques et dire que l'on sait gérer telle ou telle base de données. Vous voyez, c'est revenir sur un élément avec la bonne surprise. Vous savez, beaucoup de gens travaillent dans des PME. On peut postuler, par exemple, pour un poste de commercial. Mais dans une PME, souvent, on fait un peu avec les moyens du bord. Un commercial qui a fait une présentation et qui rajoute, en fin de présentation, parce qu'entre guillemets, il a vu que le site internet de l'entreprise n'était pas terrible, qui rajoute en fin de conversation que, bah oui, il se trouve que... il sait développer des sites internet, il sait créer des fonctionnalités, etc. Ça peut être un plus. Hein. Donc c'est garder un petit plus pour la fin de l'entretien. Ce petit plus, vous pouvez l'avoir découvert en allant sur le site de l'entreprise ou en discutant. Hein. C'est bien d'avoir un petit plus, c'est de faire une promesse produit. C'est ce que j'appelle la bonne surprise avant de partir. Et dans la conclusion, ça c'est le point C, ce qui est important, c'est de laisser des portes ouvertes. Laisser des portes ouvertes, c'est-à-dire que le cerveau humain aime bien travailler sur des problèmes. Si le recruteur vous pose une question et vous faites, entre guillemets, la bonne réponse, bon ben voilà, vous êtes dans la case, etc., le candidat pense à autre chose. Par contre, si vous amenez des problématiques, hein, ça c'est très important, si vous amenez des problématiques, notamment quand vous avez en face de vous les décideurs, donc on est plus dans les phases finales du recrutement, si vous amenez des problématiques, là, c'est quelque chose qui va faire travailler l'imagination du recruteur. Je prends un exemple. Imaginons quelqu'un qui dit, voilà, pose une question. Quelles sont vos questions? Mais écoutez, j'aimerais savoir, dans le cadre du changement de réglementation qui va intervenir en 2012 sur le marché des pesticides, quelles sont, par rapport à ça, les principales pistes que vous avez pour développer de nouveaux produits? Là, je dis n'importe quoi, mais... Et comme par hasard, vous avez des réponses sur ces questions-là. Hein, ou quelles sont les procédures que vous mettez en place pour raviver des clients qui n'ont pas commandé depuis longtemps? Et là, après, vous dites que bah, vous avez une compétence en gestion de base de données, etc. Que vous avez une compétence en matière d'intégration des sites Internet avec Facebook, Twitter, etc. Hein. Ça, c'est très, très important. Laisser des portes ouvertes, hein, ne pas se contenter de répondre simplement aux questions. amener soi-même des questions, amener des problématiques, et c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous démarquer. Voilà, hein, donc voilà donc pour ces 10 points clés. Hein. Alors, il y a un point sur lequel je souhaite insister, c'est la préparation. Hein. Il ne s'agit pas de se présenter au séminaire et puis d'improviser tout ça. Donc la préparation est importante. Et c'est aussi l'idée d'avoir une préparation qui soit fondée sur des... ne serait-ce que 5 éléments clés dans votre carrière. Hein. Si vous pouvez avoir 5 situations types, vous avez organisé un séminaire, vous avez décroché un client difficile, vous avez connu un échec retentissant, vous avez connu un grand succès, vous avez connu un grand échec, c'est d'avoir repéré 5 situations qui vous serviront au moment de l'entretien, hein, quelle que soit la situation.